Bienvenue sur cette nouvelle capsule d'information astronomique du Planétarium de Montréal pour le mois de février 2009. Difficile de la manquer ces jours-ci dans le ciel du crépuscule, pour peu que les nuages nous laissent voir le ciel. Je parle bien sûr de la planète Vénus, qui brille de tous ses feux en fin de journée au-dessus de l'horizon ouest au cours du mois de février. C'est ce mois-ci, en effet, que la planète atteint sa brillance maximale pour l'année. Il faudra par contre en profiter sans tarder, puisque Vénus disparaîtra dans les lueurs du Soleil à la fin du mois de mars. Mais nous ne sommes qu'en février, alors profitons-en. Lorsque Galilée a pour la première fois tourné son télescope vers Vénus en 1610, il a eu la surprise de découvrir que la planète montrait des phases, comme notre Lune. Pour comprendre le mécanisme des phases de Vénus, il faut se rappeler que la planète est une sphère et qu'elle est éclairée par le Soleil. Dans le système solaire, la seule source de lumière est le Soleil. Tous les autres objets, planètes, planètes naines, satellites, comètes, etc., brillent en réfléchissant vers nous la lumière qu'ils reçoivent de notre étoile. Pour tous ces objets non lumineux, cela signifie qu'il y a toujours un côté ou un hémisphère éclairé et un autre complètement sombre. C'est le cas aussi pour Vénus. La grande surprise de Galilée en découvrant les phases de Vénus venait du fait qu'à son époque, on croyait que l'univers était centré sur la Terre et que tout tournait autour de notre planète. C'est ce que l'on nomme le géocentrisme, un système complexe dû à l'astronome Claude Ptolémée qui a vécu au IIe siècle de notre ère. Or, il est pratiquement impossible d'expliquer la séquence des phases de Vénus dans un tel système. Il est par contre beaucoup plus simple et élégant de rendre compte des phases de Vénus si les planètes, y compris la Terre, tournent autour du Soleil. C'est l'héliocentrisme de Copernic, dont Galilée deviendra un ardent défenseur suite à ses découvertes faites au télescope. Bien que sa position lui aura valu bien des ennuis par la suite avec l'Inquisition, l'histoire lui donnera raison et plus personne aujourd'hui ne conteste la position centrale du Soleil dans le système solaire. Mais revenons à Vénus. Puisque la planète tourne autour du Soleil sur une orbite située à l'intérieur de l'orbite terrestre, nous voyons sa moitié éclairée sous différents angles. Par exemple, lorsque Vénus est située de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre, ce que les astronomes appellent une conjonction supérieure, toute sa surface éclairée est tournée vers nous. L'observation d'une pleine Vénus est cependant compliquée par le fait que la planète se trouve alors dans la même direction que l'éblouissant Soleil. Quand, au contraire, Vénus et la Terre sont du même côté du Soleil, une conjonction inférieure, c'est la moitié sombre, non éclairée de Vénus qui est tournée vers nous. La planète devient alors pratiquement invisible. Entre ces deux extrêmes, Vénus peut nous apparaître comme un mince croissant, une demi-Vénus ou une Vénus gibbeuse, exactement comme la Lune. Si vous avez accès à un petit télescope d'amateur, ne manquez pas l'occasion de le pointer vers Vénus pour constater par vous-même ce que Galilée a vu il y a 4 siècles. Une observation qui a bouleversé notre vision du monde et de la place que nous y occupons. Si vous l'observez plutôt à l'œil nu, une jolie rencontre entre Vénus et le croissant de Lune aura lieu le 27 février au crépuscule. Février est le mois idéal pour admirer les constellations du ciel d'hiver et certains des joyaux qu'il recèle. Ainsi, à 20h, vers la mi-février, le grand chasseur Orion domine le ciel au-dessus de l'horizon sud. À l'aide de la carte du ciel de février, repérez d'abord cette constellation facilement reconnaissable, puis servez-vous des 3 étoiles alignées qui dessinent la ceinture du grand chasseur pour trouver Sirius vers la gauche dans la constellation du grand chien et Aldébaran et les Hyades vers la droite dans le taureau. Plus loin à droite, les Pléiades ressemblent à une grande ours en miniature. Cet amas d'étoiles jeunes est un superbe objet à admirer aux jumelles. 2 autres constellations remarquables, le Cocher et les Gémeaux, se situent au-dessus d'Orion, près du zénith. Les principales étoiles de ces constellations, auxquelles il faut ajouter Procyon dans la constellation du Petit Chien, dessinent un grand hexagone que l'on appelle, vous l'aurez deviné, le grand hexagone d'hiver. On a déjà mentionné les Pléiades comme une cible intéressante aux jumelles. 2 autres objets du ciel profond valent également le détour. Il s'agit de l'amas de la Ruche, au cœur de la constellation du Cancer, et de la grande galaxie d'Andromède, dans la constellation du même nom. Dans ce dernier cas, il faut par contre agir vite, puisqu'Andromède se couche vers minuit. Enfin, si vous avez un petit télescope et que vous avez fini d'admirer Vénus, tournez-le vers la région située sous la ceinture d'Orion. Vous découvrirez un vaste nuage de gaz et de poussière, une nébuleuse, où de nouvelles étoiles se forment en ce moment même. Vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres encore dans la section intitulée « Dans le ciel » du site Internet du Planétarium de Montréal au www.planétarium.montréal.qc.ca. Vous pouvez également joindre le Planétarium de Montréal par téléphone au 514-872-4530. Cette capsule est une production du Planétarium de Montréal. Texte Pierre Chastenet. Prise de son Michel Paradis, Réal Cyr. Webmestre Marc Jobin. Ici Pierre Chastenet qui vous dit bonnes observations et à la prochaine.